Herzlich willkommen zu Mein Element, dem Podcast vom Lützebäuer Journal und Zusammenarbeit mit dem Fonds National de la Recherche.
Avec les progrès qu'on a fait dans le traitement du signal audio et en intelligence artificielle, on est capable d'extraire énormément d'informations dans un enregistrement d'un patient ou d'une patiente. Et on est capable de suivre des paramètres de santé uniquement via sa voix. Avant de me consacrer à 100% à la recherche, j'étais plutôt destiné à avoir une carrière dans le sport. On espère avoir un vrai bénéfice sur la vie au quotidien des patients en intégrant les nouvelles technologies dans leur vie quotidienne.
So, lo klingt das Ganze ein bisschen wie gesund. Mein Name ist Max und heute dreht sich alles rund um das Stimmbänder. Und sicher ist doch krass. Wir können alle gut relativ sehr unter Stimme erkennen, ob die Person vis-à-vis von uns an der letzten Nacht Lumpe war oder ob sie sich sogar vielleicht erkalt hat. Aber was wir wollen sich jetzt so hin, dass es in Zukunft nicht unwahrscheinlich ist, dass ich mit der Hülle von einer kleinen Spruchnachricht schon herausfinden kann, ob die andere Person ein Krankheit wie zum Beispiel Diabetes oder Krebs hat. Genau darum geht es heute mit meinem Witte, und das ist den Guy Fagerazzi. Und ich bin wie immer gefragt, wie hin sich der Gave auf einer Party vorstellen.
Donc moi, si je dois me présenter dans une fête, je dirais que je m'appelle Guy Fagerazzi, que je suis un chercheur, je fais de la recherche en épidémiologie et je travaille sur différentes maladies avec un volet particulier sur l'utilisation du digital, les nouvelles technologies pour améliorer la vie des patients.
Der Guy also ist wie ein Hotshot aus der Lützburger Wissenschaftsszene. Angefangen hat sein Karriere zwar Mathe, mit dem nur hat ihn direkt den doppelten Master gemacht. Einen an der Statistik und einen an der Epidemiologie. Seit 2019 ist er Chef von seiner eigenen Research Group am Luxembourg Institute of Health und probiert da mit der Hilfe von neuen Technologien neue Wege zu gehen. Damit hat er noch direkt einen großen Schritt auf der Karriereleiter gemacht und das, obwohl er eigentlich noch relativ jung ist. Und das muss doch irgendwie komisch sein, wenn andere Leute, die schon viel mehr lang an der Forschung mit dabei sind, einem OB-Mol in der Stall sind. Oder?
En fait, effectivement, je suis assez jeune pour le poste que j'occupe actuellement, parce que je dirige un des départements de recherche. Il y a trois départements de recherche au LIH. Il y a le département infection et immunité, le département de la recherche sur le cancer et le département de la santé de précision, Department of Precision Health. Et c'est celui-ci que j'ai la chance de diriger depuis un an maintenant. Et en fait, j'ai commencé ma carrière très jeune. J'ai tout fait relativement jeune par rapport à la moyenne, on va dire. Et j'ai eu une opportunité puisque l'ancienne directrice du département est partie pour d'autres fonctions. Et donc, j'ai candidaté, j'ai eu la chance d'obtenir ce poste. Mais pour l'instant, je pense que ça se passe très bien. J'ai la confiance de tout le monde. On travaille très bien ensemble. On a une bonne équipe. C'est un département qui est très dynamique. Donc, pour moi, c'est un vrai plaisir.
Est-ce que ce n'est pas parfois bizarre de mener une équipe qui est peut-être plus âgée que toi et qui a peut-être un peu plus d'expérience?
Alors l'expérience, effectivement, il y a des personnes dans le département qui en ont plus que moi parce qu'ils ont plus d'années de carrière dans la recherche, ils ont énormément de compétences et c'est très bien en fait. Moi, je vois ça d'une manière très positive. Ce sont des personnes qui peuvent tirer le département vers le haut. Après, moi, j'estime que j'ai aussi des choses à apporter. J'ai une vision que je veux mettre en place, implémenter pour le département. Et donc, en fait, moi, je vois ça comme un travail d'équipe. À partir du moment où les gens se font confiance et travaillent ensemble, l'âge, finalement, ça n'importe peu. Et tant qu'on a un objectif et un but commun, on y arrive assez facilement. Et je pense qu'il y a une très bonne communication aussi dans le département. Et ça aide. Et finalement, l'âge, c'est qu'un nombre à la fin. Et puis, l'important, c'est de travailler tous ensemble et d'avancer, quoi.
OK. Et comment est-ce qu'une journée typique se passe-t-elle pour toi?
Alors, depuis 2 ans, les journées typiques se résument malheureusement par beaucoup de vidéoconférences. Ça prend énormément de temps dans la journée d'un directeur de département de OLIH. Mais j'ai quand même la chance de pouvoir assurer à la fois ces journées où je m'occupe de l'aspect de direction du département et aussi mon équipe de recherche, puisque je continue à faire de la recherche avec mon équipe dans OLIH. Et donc, j'essaie d'alterner des aspects très administratifs, de management du département, avec quand même des aspects scientifiques où on peut essayer de réfléchir ensemble sur des questions scientifiques, de recherche, publier, continuer à rédiger des articles scientifiques. C'est aussi beaucoup de travail de représentation du LIH ou des intérêts du LIH dans des grandes réunions. On travaille beaucoup avec le ministère de la Santé, avec d'autres institutions, dans des consortiums. Voilà, donc c'est la journée typique, c'est beaucoup de réunions. Ça prend beaucoup de temps, mais ça permet aussi d'avoir un rôle stratégique et pouvoir avoir un impact sur la stratégie et des nouveaux projets de recherche qui vont être mis en place au LIH. Et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus.
Und so schon ist immer gedacht, dass Forscher immer ein ganz spezifisches Feld tun, an dem sie einen absoluten Expert sind. Und an die anderen Themengebiete, ja, du hinten zwar schnappst du von der Herren, mir geht den aber nicht allzu tief und Wasser. Bis ich dann eben die Gie kennengelernt habe. Und die kennt sich eben nicht nur mit der Statistik aus, mir eben auch mit den Disziplinen Diabetes oder eben Krebsforschung. 2020 kommt dann aber noch eine neue Disziplin dabei.
In China als 12 von den Fällen von der neuen Lungenkrankheit explodiert auf 200. Eine weitere Person ist auch darunter gestorben, sodass bis jetzt 3 Todesfälle konfirmiert sind. Betroffen ist die zentralchinesische Metropole Wuhan.
Zentral gestorben ist also gewusst, dass es wohl den ersten Infektionsfall mit dem neuen Coronavirus bei uns auch gibt.
Die Regierung hat heute den Reglement Grand Ducal angeholt und damit den Artikel 32.4 von der Verfassung invokiert, für den Etat de Crise zu Lützeburg zu deklarieren. Das ist ein Kurs gegen den Virus. Aber wir können den Virus nicht den Kurs wandeln lassen. Wir müssen alles machen, für so sehr wie möglich die Aktionen können zu holen, für das eben auch die Pandemie so klein wie möglich gehalten wird.
Corona-Pandemie ist natürlich eine komplett andere Krankheit wie Krebs oder Diabetes und dort die Gieser müssen die ganze Ergebnisse neu orientieren. Und so mal so, die eine oder andere Sache war Learning by Doing.
Effectivement, moi je viens plutôt du domaine de l'épidémiologie du diabète et j'ai plutôt une expertise dans les maladies chroniques, le cancer aussi, puisque je travaillais dans un institut en cancérologie avant en France. Alors, quand la pandémie est arrivée, tout a été stoppé. Par exemple, j'avais une grande étude de cohorte de personnes diabétiques qui devait démarrer en mars 2020. On a tout arrêté et on a réinvesti toutes les ressources et toutes les capacités du LIH pour mettre en place des grands programmes de recherche sur le Covid. Et c'est sûr que j'étais pas du tout spécialiste des maladies infectieuses. J'avais jamais travaillé là-dedans. Et donc, il faut apprendre, il faut se mettre dedans, comme tout le monde. Et ça n'a pas été facile. Hein. Il y a beaucoup de... On a appris beaucoup en faisant aussi, au fil de l'eau. Personne n'avait de recul forcément sur cette maladie et sur ses impacts. Donc on a appris en faisant, en marchant, comme tout le monde. Et puis c'est en interagissant beaucoup avec les autres instituts, avec le ministère, avec la direction de la santé, avec les rapports, avec l'OMS, qu'on a essayé au fur et à mesure d'adapter notre recherche pour qu'elle soit la plus pertinente possible par rapport à l'état actuel des connaissances. Et puis, on l'a fait évoluer récemment. Par exemple, pour donner un exemple concret, au début, on travaillait sur les impacts à court terme du Covid-19, sur la phase aiguë juste après l'infection. Là, de plus en plus, on commence à travailler sur les conséquences à long terme, qu'on appelle le Covid long ou long Covid, puisqu'on se rend compte qu'il y a une vraie problématique de santé publique aussi sur ces questions-là, sur les conséquences à long terme de la pandémie et de la maladie. Donc, on adapte notre recherche en fonction de l'état des connaissances et comment il évolue. Et c'est, même si c'est un challenge, c'est aussi ça qui est passionnant d'un point de vue de la recherche, c'est qu'on essaye de coller au plus près à l'actualité, à l'évolution des connaissances. Mais effectivement, pour quelqu'un qui n'était pas du tout du domaine des maladies infectieuses, ça a nécessité un peu de travail d'investissement, mais là, on arrive à un stade où on commence à quand même avoir une bonne compréhension de ce que c'est la maladie, ses conséquences, et c'est un travail pluridisciplinaire aussi. Au LIH, on a la chance de travailler avec d'autres départements qui, eux, ont de l'expertise sur les maladies infectieuses, sur les paramètres liés à l'immunité, et qui jouent un rôle très important dans la maladie. Et donc, on bénéficie des expertises les uns les autres, et c'est comme ça qu'on avance.
Eine Idee haben und darauf schaffen, das gehört zum Alltag einer Forschung. Heinz, du musst aber auch gucken, ob das, was sich ein paar Bayer ausgedacht hat, nicht nur gut anhört, sondern auch an der Praxis applikabel ist. Und dafür möchte ich dann Etüden. Und die können richtig anstrengend sein, weil die müssen ganz gut geplant sein. Und lang am Voraus. Eine Etüde kann nämlich nicht von heute auf morgen spontan auf Facebook gestartet gehen. Nee, da gehen nicht engselig Sachen, die vorher müssen bedurcht und aufgeklärt gehen.
Je pense que le plus simple pour ça, c'est de prendre un exemple d'une grande étude qu'on a lancée il y a deux ans maintenant, au début de la pandémie, qui est une étude de cohorte qui s'appelle Prédit Covid et qui suit des patients et des personnes qui ont été testées positives à Covid-19 et qu'on suit sur deux ans maintenant pour étudier leur état de santé. Et en fait, ça, c'est un peu ce que je sais faire depuis, c'est ma spécialité, c'est mettre en place des grandes études de cohorte où ensuite tout le monde vient pour utiliser les données, les échantillons qui sont collectés sur les patients et les participants pour faire leurs recherches. Donc, monter des projets de cette envergure, ça prend énormément de temps. C'est des gros projets qui impliquent plein de facettes du LIH. C'est toutes les équipes quasiment du LIH, à la fois opérationnelles et de recherche, sont mobilisées pour mettre en place ce genre de grands projets. Alors, les différentes étapes, c'est quoi? Ça commence par identifier les questions de recherche que l'on va vouloir adressé à partir de cette étude, les données, les échantillons qui vont être collectés sur les patients. On fait des prises de sang, on prélève des échantillons de salive, de cheveux, de sel, des crachats pour le Covid, par exemple. Ensuite, il faut gérer le côté opérationnel avec les équipes qu'on a au LIH pour aller faire des visites auprès des patients, s'assurer que la recherche que l'on fait soit éthique. Donc, il faut définir un protocole, il faut soumettre les dossiers à notre comité national d'éthique pourra s'assurer que les patients sont bien protégés et que la recherche fait du sens d'un point de vue éthique. Donc tout ça, ce sont des étapes à passer avant de rentrer vraiment dans la recherche propre. Et puis une fois que l'étude est démarrée, c'est s'assurer régulièrement que les données collectées, ça se passe bien, que les participants continuent de participer dans une étude qu'on appelle prospective, qui dure dans le temps pour être sûr qu'ils continuent à participer sur le long cours. Et ensuite, c'est utiliser, interagir avec les chercheurs, les data scientists ou les biostatisticiens qui analysent les données avec les chercheurs pour les valoriser, pour être sûr qu'on fait la meilleure recherche possible. Et ensuite, ça passe par l'étape de publication où on va analyser les données, valoriser les données qui ont été collectées auprès des patients et des participants pour communiquer sur nos résultats. Et puis la dernière étape de tout ça, c'est une fois que les publications sont faites, c'est retourner auprès du grand public, faire de la communication scientifique, ça c'est très important aussi pour nous, pour être sûr que les résultats que l'on génère à des fins de recherche bénéficient aussi à la population qui a permis de générer ces résultats. Donc c'est une boucle un peu vertueuse entre ce qu'on appelle bed to bench to bed cycle. Donc c'est vraiment, on commence auprès des patients ou des populations, on essaye de faire des résultats de recherche et on retourne auprès d'eux pour être sûr qu'il y a un bénéfice. Donc, des études comme ça, ça peut prendre des années. Hein. L'étude Prédit Covid dont je parlais est toujours en cours et on a beaucoup de travaux de recherche qui sont en cours sur cette étude-là.
A Menge Gespräche mit den Forscher und Forscherinnen hoffen ich immer so einen guten Ausgleich zu finden zwischen den Themen, die sich mit ihrer Wissenschaft befassen und den Sujen, die ihnen vielleicht persönlich wichtig sind. Und da das bei verschiedenen auch ein bisschen mir einfach rauszufinden wie bei anderen, aber im Gie habe ich mich wirklich so ein bisschen wie ein Hacker gefühlt. Da habe ich mich nämlich durch den ganzen Twitter-Feed durchgekämpft, für rauszufinden, dass ihn um Sport interessiert ist. Wobei, was heißt interessiert? Je nachdem, wie Schicksal gespielt hat, hatte ich die Gien im Schnitt aus seinem Lobo interviewt, mais on avait fait en Westjahren.
En fait, avant de me consacrer à 100% à la recherche, j'étais plutôt destiné à avoir une carrière dans le sport. Et j'étais en sport-études basket. J'ai fait plusieurs sélections régionales puis nationales en France dans le basket. Donc c'est évidemment le sport qui me passionne depuis que je suis tout petit. Toute ma famille fait du basket depuis toujours, donc je baigne là-dedans naturellement. Donc quand je suis arrivé au Luxembourg Institute of Health, je me suis installé à Thionville, à la frontière, et puis donc c'est naturellement comme ça que j'ai commencé à suivre ce club. J'y ai joué un peu, mais avec la pandémie, j'ai arrêté. Et puis là, maintenant, avec ma vie de famille et tout ça, c'est un peu compliqué de pouvoir faire du basket autant qu'on veut. Mais en tout cas, ça reste une passion que j'ai depuis tout petit et que je continue à avoir.
Et pourquoi est-ce que tu as changé ton chemin sportif au chemin de chercheur ?
Alors, je me suis blessé plusieurs fois au genou quand j'avais 16 ans, puis 18 ans. Je me suis fait opérer sur des grosses blessures qui m'ont arrêté pendant 6 mois. Et puis après, de toute façon, j'ai dû faire un choix avec les études. C'était important de me focaliser principalement sur mes études. Donc, j'ai mis un peu le basket de côté. J'ai diminué un peu l'implication que j'avais dans le basket. Et puis ensuite, j'ai continué à faire ça pour le loisir de temps en temps, pour faire du sport, de l'activité et continuer ça, mais avec moins d'intensité. C'était moins sérieux que ce que je faisais jusqu'à l'âge de 18 ans, où là, c'était plusieurs fois par jour, tous les jours, en sport-études. Mais ça m'a appris énormément, en fait, cette période-là, sur à la fois le côté de compétition, puisque le monde de la recherche, malgré tout, c'est un monde avec énormément de compétition. Donc, je pense que je gère très bien la compétition j'ai aucun problème à évoluer là-dedans. Et le travail d'équipe aussi. Le basket, c'est un sport collectif et ça apprend à travailler avec les autres, à gérer les autres, à mener les autres aussi vers un objectif commun. Et en fait, tout ce qu'on peut apprendre dans le sport, en fait, on peut le transférer très facilement dans le monde du travail et dans le monde de la recherche en particulier. Donc je pense que toute cette période de ma vie m'a énormément aidé pour en être là où je suis aujourd'hui.
Oui, je voulais demander si c'est une compensation, en fait. Si tu ne peux pas gagner tous en basket, que tu veux gagner tous en sciences.
Bah, peut-être qu'inconsciemment, effectivement, maintenant, c'est important pour moi de faire évoluer le plus possible la recherche. Et peut-être que je vois ça aussi un peu comme un sport, hein, le monde de la recherche, c'est vrai. Mais ce que j'aime dans la recherche, c'est ce que j'aimais aussi dans le basket, c'est-à-dire le côté travail en équipe, pousser tous vers un objectif commun, essayer de faire changer les choses, se dépasser. Voilà, c'est les choses que j'aime, que je retrouve dans la recherche que j'avais avant dans le monde du sport et du basket. Donc effectivement, je pense qu'il y a énormément de transitions entre les deux.
Et qui était le meilleur joueur de basket?
Moi, j'ai grandi en étant un fan, comme beaucoup, de Michael Jordan.
And now, the player coach of the Toon Squad, at 6'6", from North Carolina, his royal fairness, Michael Jordan.
C'était l'époque.
L'époque Space Jam, qu'on l'appelle.
Ah non, pas Space Jam, non, ça c'est un film je sais pas si ça lui a fait honneur dans sa carrière, mais en tout cas, j'étais un grand fan des Chicago Bulls dans les années 90 et j'ai suivi sa carrière. J'avais des vidéos, des cassettes VHS que je me repassais en boucle. Je connais tout de lui, voilà. Ça c'était mon idole et ça l'est toujours d'ailleurs.
Et que fais-tu maintenant pour relaxer?
Alors, qu'est-ce que je fais pour me détendre? J'essaye de faire quand même un peu de sport de temps en temps, toujours. J'essaye de passer du temps avec mes enfants, parce que ça, c'est le meilleur moment de la journée, c'est quand on peut s'amuser, passer du temps avec ses enfants. J'écoute beaucoup de musique. J'ai une collection de vinyles chez moi qui grandit de jour en jour. J'aime beaucoup ça, donc j'écoute énormément de musique dans la journée, même au travail. Hein, quand je travaille, c'est souvent avec de la musique. Donc c'est le meilleur.
Aussi le vinyle ?
Pas au travail. J'ai pas de platine dans mon bureau. C'est plutôt avec un casque et sur Spotify. Mais par contre, à la maison, c'est des vinyles quand je peux pour me détendre le soir. Voilà.
Et quel genre de musique ?
Comme je viens du monde du basket, j'ai beaucoup grandi dans le rap. Ça allait beaucoup ensemble. Donc, j'écoute toujours beaucoup de rap américain et de rap français. J'ai grandi là-dedans. Et puis, de plus en plus, je me suis ouvert à d'autres musiques, à la fois de la musique plutôt électro. Et quand on parle des vinyles, c'est quasi exclusivement du jazz. J'ai eu la chance dans mes études d'avoir une professeure que j'estime beaucoup toujours aujourd'hui, qui venait des États-Unis faire un séjour en France et qui a fait un cours pendant 6 mois sur l'histoire du jazz. Elle nous a fait découvrir le jazz. Et c'est un cours qui m'a absolument passionné. Ça n'avait rien à voir avec le reste de mes études, mais je suis tombé dedans et du coup, je me suis mis à fond dedans. Et maintenant, je pense être un bon amateur de jazz aussi. Et donc, j'écoute ça énormément. Ça me détend. C'est de la belle musique. Et voilà, Billie Holiday, par exemple, c'est ma chanteuse que je préfère. J'adore ça.
An aus dem Gespräch hun ich de Gi gefrot, ob hin sich dann noch als Geek gesagt, weil wann in durch den sozialen Medien bist du scrollt, fällt einem ab, dass hin zum Beispiel ein ganz großes Star Wars Fan ist. Aber das ist nicht der Mutter geduld, dass hin Laserschwerter, den Darth Vader oder den Chewbacca cool findet. Ich habe das Gefühl, dass die ganzen Filme hin und bei einer Art und Weise auch noch faszinieren. Oder vielleicht sogar aus ihrem Denken geprägt tun. Zumindest das ging erklären, für was das Gie mittlerweile dafür verantwortlich ist, neue Technologien an Science zu integrieren. Boah, das klingt nur natürlich so ein bisschen, wie wenn ich mit Buzzwords drin werfen, aber hol mal ein konkretes Beispiel. Wie kann ich Big Data und Wissenschaft integrieren?
Le point d'entrée pour les nouvelles technologies, c'est de bien comprendre qu'aujourd'hui, les patients génèrent énormément de données, où on est capable de collecter énormément de données ou générer, pour des fins de recherche, énormément de données à partir de ce que les patients peuvent nous partager dans les études cliniques ou épidémiologiques qu'on est capable de mettre en place. Et donc, à partir de là, on est dans ce qu'on appelle le big data, les grands volumes de données. Les nouvelles technologies, si on prend l'exemple du diabète, les patients diabétiques, les personnes diabétiques génèrent énormément de données en se suivant, en mesurant leur glycémie, en suivant leur activité physique, leur alimentation, etc. Et donc, tous ces paramètres-là, ils nous permettent, si on sait comment les analyser, avoir une compréhension beaucoup plus fine de la maladie et surtout de son impact dans la vie réelle des patients. Donc c'est comme ça qu'il faut, en tout cas que nous, on approche la question des nouvelles technologies, c'est comment intégrer les nouvelles technologies dans la vie quotidienne des patients pour que ça leur bénéficie, pour que ça limite le fardeau de la maladie, pour qu'on comprenne mieux la maladie pour ensuite mieux prévenir certaines complications. Il faut bien comprendre que les nouvelles technologies, c'est simplement un outil supplémentaire qu'on a à notre disposition. C'est pas juste parce qu'il y a des nouvelles technologies on les utilise, c'est parce qu'on espère avoir un vrai bénéfice sur la vie au quotidien des patients en intégrant les nouvelles technologies dans leur vie quotidienne.
Ganz am Anfang gut, wahrscheinlich gemerkt, meine Stimme war ein bisschen ungeschlagen und keine Angst, schon mittlerweile ein Hörschkanal fand, aber aus euch wollte ich es komplett anders raus. Der Guy schafft nämlich gerade in einem richtig crazy Projekt. Hier will anhand von der Stimme erkennen können, ob Leute krank sind und was sie haben. Ich weiß, du kennst die Menge, Thomas Gottschalk hat gerade ein Wett für gelesen, aber stell dich das Ganze ein bisschen wie Depp Shazam für. Die App, die Musik scannt und ihr dann durch den Algorithmus seht, welche Lieder sie gerade gelauscht hat. Just am Platz, dass ein Algorithmus hier ihr das neueste Lied von Taylor Swift rausspeizt, seht ihr Depp, ob ihr Diabetes, Krebs oder eine Depression hat. Aber ich meine, der Guy kann das ein bisschen besser erklären.
Parmi toutes les nouvelles technologies sur lesquelles on travaille, ce qui nous occupe le plus actuellement, c'est l'utilisation de la voix et utiliser les nouvelles technologies pour entraîner des modèles pour définir ce qu'on appelle des biomarqueurs vocaux. Alors, qu'est-ce que c'est des biomarqueurs vocaux ? En fait, c'est des signatures, des informations dans la voix qui vont être un tout petit peu différentes si on a un certain symptôme ou si on a une certaine maladie. C'est des signaux qui ne sont pas forcément perceptibles par l'oreille humaine, mais avec les progrès qu'on a fait dans le traitement du signal audio et en intelligence artificielle, on est capable d'extraire énormément d'informations dans un enregistrement d'un patient ou d'une patiente, et on est capable de suivre des paramètres de santé uniquement via sa voix. Et donc c'est ça qu'on essaye de mettre en place dans différentes maladies, le diabète, Covid-19, cancer par exemple. Et on extrait des informations, on entraîne des algorithmes d'intelligence artificielle pour suivre, par exemple, un certain symptôme ou diagnostiquer ou en tout cas dépister une certaine maladie. Donc ça, c'est le projet Colive Voice dont on parle, qui est une étude internationale. On a besoin d'énormément de données, justement, pour entraîner ces algorithmes. On parlait de Big Data tout à l'heure. Donc on vise 50 000 participants partout dans le monde, sur les 5 prochaines années et dans toutes les langues possibles. Pour l'instant, on travaille en anglais, allemand, français et espagnol, mais on ouvrira bientôt à d'autres langues. Et pour l'instant, ça marche pas trop mal. On a des participants de tous les continents qui contribuent, ils font don de leur voix pour que nous, ensuite, d'un point de vue de la recherche, on fasse des corrélations et qu'on essaye de prédire des symptômes ou des maladies à partir de leur voix. Donc, c'est ce qui nous occupe beaucoup. Et à terme, ces biomarqueurs vocaux, on espère les intégrer dans soit des applications smartphone pour que les patients ou les personnes puissent se suivre elles-mêmes en s'enregistrant et en ayant des informations sur des paramètres de santé ou dans des outils de télémédecine ou téléconsultation. On pourra imaginer des consultations qu'on appelle augmentées. Plutôt que simplement d'avoir une vidéo entre le médecin et le patient, on pourra avoir en temps réel des informations médicales en analysant la voix pendant la discussion entre le patient et son médecin. Donc voilà ce qu'on essaye de faire pour améliorer, mieux suivre les maladies au quotidien dans la vraie vie, pour que les patients et les professionnels de santé puissent réagir plus vite, plus adapter les traitements plus rapidement et donc, in fine, améliorer la qualité de vie des patients.
Est-ce que ça, c'est une théorie ou est-ce qu'il y a déjà des premières preuves que ça fonctionne?
Alors, ça fonctionne pour l'instant dans certaines maladies. On se rend compte qu'il y a certains cas, par exemple des maladies neurodégénératives, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur le sujet parce que mécaniquement, les maladies neurodégénératives ont un impact sur la production de la voix. Et donc, en suivant l'altération de la voix, quelque part, on suit l'évolution de la maladie. Nous, ce qu'on essaye de faire maintenant, c'est de transposer cette approche-là, de l'objectiver et de la transférer dans d'autres domaines, dans d'autres maladies chroniques, comme le suivi après un cancer ou un diabète. Donc, on est en train de montrer que dans plein de cas d'usage, l'utilisation de la voix est pertinente et on détecte des différences entre les malades ou les pas malades ou des personnes qui ont un symptôme et versus des gens qui n'ont pas le symptôme. On l'a montré pour la première fois au LIH dans le Covid-19. À partir de la voix, on a pu prédire si la personne a des symptômes ou non, uniquement en écoutant sa voix. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très prometteur puisqu'on va essayer de l'intégrer maintenant dans des programmes de suivi de personnes qui ont des Covid longs pour essayer de leur montrer les bénéfices d'un programme de rééducation pour leur Covid long et montrer que grâce à la voix, on va pouvoir suivre leur évolution de leur état de santé. Ça, c'est un premier exemple. Dans le domaine du diabète, on est en train de travailler sur un dépistage automatisé à partir de la voix pour voir si la personne est potentiellement diabétique ou non. On a des premiers résultats préliminaires qui sont très prometteurs. Maintenant, il faut qu'on ait suffisamment de monde, de participants dans nos études pour valider, avoir des modèles robustes. Mais donc d'ici peut-être 5 à 10 ans, l'utilisation de la voix va être intégrée dans la pratique clinique, dans la pratique courante, dans des dispositifs médicaux, dans des outils de télémédecine. Et on espère que ça bénéficiera au plus grand nombre le plus rapidement possible. Donc selon les maladies, on est à différents stades de maturité et d'avancement dans la recherche. Il y a certaines maladies où on est beaucoup plus avancé, d'autres où c'est encore à l'état de recherche fondamentale ou très préliminaire. Et puis, il y en a d'autres. On imagine bien que les maladies respiratoires, par exemple, la voix, c'est facilement mesurable et on voit que ça a un impact sur les paramètres de la voix. Dans d'autres domaines, comme le diabète, par exemple, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça qu'on a besoin de plus de monde pour vraiment entraîner des algorithmes qui soient très fins, très, très robustes. Mais en tout cas, voilà, on est dans cette démarche-là et on espère que d'ici 5 ans, on verra les premières applications cliniques de cette recherche.
Qu'est-ce que c'est ton prochain grand projet que tu es en train de préparer maintenant? Donc, quand on ne sait rien, on ne peut rien trouver sur l'Internet ou quelque part, qu'est-ce que c'est le prochain grand projet?
Le prochain grand projet de recherche qui est encore un peu inconnu, c'est de travailler chez des patients qui ont un cancer de la tête et du cou, ou de la tête et du cou, les head and neck cancer. Et ces gens-là, ils ont des modifications dans leur voix, mécaniques aussi, de par leur maladie. Et on va essayer d'utiliser ce qu'on sait faire avec les biomarqueurs vocaux et l'utilisation de la voix pour mieux les suivre avant et après des chirurgies, par exemple, pour détecter la présence de cancer de la tête et du cou ou essayer de prévenir des récidives chez ces patients-là. C'est un projet auquel moi je crois beaucoup. On est en train de le mettre en place. On est en train de chercher des financements pour réaliser ça. Mais si ça marche, je pense qu'on peut vraiment avoir là, à court terme pour le coup, un bénéfice direct pour ces personnes-là. Donc ça, c'est le projet sur lequel on travaille actuellement, qui est encore dans les tiroirs, mais qu'on va bientôt sortir du tiroir pour le réaliser.
très bien. Merci beaucoup.
Merci.
Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat den Podcast rumgefallen. Abonniert an diesen Podcast, bis ihr einen dummen Kram kriegt. Bis die nächste Woche. Ciao.